Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, umanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
C'est sans doute ce grand classique composé en 1902 par le pianiste afro-américain Scott Joplin. Il s'agit de The Entertainer, dont la tonalité ragtime nous plonge dans l'épopée des musiques noires au début du XXe siècle. C'est donc un bond de 100 ans en arrière que nous vous proposons aujourd'hui, et ce en compagnie de Sébastien Trondelet. Soyez le bienvenu.
Merci de m'accueillir.
Vous êtes pianiste, vous nous présentez aujourd'hui un disque très intéressant, historiquement comme musicalement, puisque vous essayez de nous décrire au piano les différences entre le ragtime et le boogie-woogie. Comment est née cette idée saugrenue ?
Elle est née dans mes tripes en fait. Moi, depuis que je suis tout gamin, quand mon père m'a fait découvrir ces deux styles de musique, je me suis dit un jour je veux réussir à jouer ça sur une scène, peut-être que je n'osais pas l'imaginer encore, mais en tout cas je me suis dit un jour je veux jouer ça au piano.
Pourquoi fait-on souvent l'erreur de mélanger le ragtime et le boogie-woogie, selon vous ?
Alors peut-être que j'y suis pour quelque chose, le fait d'avoir appelé mon spectacle Rag & Boogie. Non, ça reste quand même flou
dans les esprits.
Je parle souvent de Jerry Lee Lewis, même si c'est pas du boogie pur, mais ça vient de là et on a une même base et ça parle aux gens. De même que il suffit de chanter The Entertainer pour que les gens situent Scott Joplin, ou de parler des films muets. Donc ça met automatiquement une image qui correspond très bien au ragtime.
Donc Scott Joplin, c'est du ragtime ?
Exactement. Quand j'en parle aux enfants, pour leur expliquer la différence, je leur parle du poum-tchak pour ce qui est du ragtime. La main gauche, elle fait poum-tchak, poum-tchak. Le poum correspondant aux basses qu'on va chercher relativement dans les graves du piano, et les accords qu'on va jouer au milieu du piano, ce qu'on appelle aussi, pour les musiciens, ça s'appelle la pompe. On retrouve la même chose dans la guitare manouche. Poum-tchak, 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 poum-tchak. Ça, ce serait au niveau de la guitare. Et le poum-tchak de la main gauche du piano, ça nous donne exactement le son du ragtime.
Et le boogie-woogie ?
Et le boogie-woogie, on peut peut-être parler du train.
Train.
Les vieux trains à vapeur. Si je l'accélère, on entend le son du boogie dans les rythmiques de train, on peut dire.
Quelles sont les origines de ces musiques-là ? Le ragtime a une origine africaine ?
Historiquement, j'aime bien, mais peut-être que je me ferais taper sur les doigts justement par des historiens, mais j'aime bien mélanger ces deux styles de musique, tant au niveau de l'histoire que de les jouer dans une même soirée, parce que ça se fait très peu. Et historiquement, pour moi, la base des deux musiques, c'est les esclaves qu'on a amenés par le commerce triangulaire. Vous connaissez tous les détails qu'on amène aux États-Unis. Ils ont leur propre culture, ils ont leur propre langage. On les éclate aux quatre coins du pays pour pas qu'ils communiquent entre eux. On les rend esclaves, on les fait travailler dans les champs de coton, ils inventent le blues. En même temps, quelque part en Europe, on invente le piano. Le piano forte à l'époque, on invente le piano qui devient l'instrument le plus populaire, quoi. Tout le monde rêvait de savoir en jouer, dont les Noirs aux États-Unis qui avaient accès à ce type d'instrument. Et donc, ce qu'il fallait savoir jouer, c'était du piano. Forcément, la musique classique européenne, ils l'avaient quand même entendue, ils l'avaient dans l'oreille. Donc, pour moi, c'est forcément un mélange de plein de styles de musique.
Est-ce que je caricature si je dis que le ragtime est une musique blanche et le boogie-woogie est une musique noire? Quand j'entends le ragtime, j'entends l'influence européenne beaucoup plus prononcée que dans le boogie-woogie. Le boogie-woogie, pour moi, fait plus appel, on va dire, au blues et donc à une musicalité enracinée dans le sud des États-Unis. Est-ce que je me trompe ?
À la fois oui, parce que c'est vrai que ce côté enraciné, je suis assez d'accord dans le boogie, notamment, d'autant plus que le boogie, c'est une musique qui est de tradition orale. Donc c'était des musiciens qui n'avaient pas eu de cours de musique, qui ne savaient pas lire la musique, donc tout se faisait par le chant, par la démonstration au piano, j'imagine. Le ragtime, par exemple, Scott Joplin, lui, a eu des leçons d'harmonie, des leçons de composition par un professeur allemand qui lui a appris la musique classique et... On entend plus le son européen dans le ragtime.
Je vous propose, Sébastien Tronelet, puisque nous sommes installés dans le studio One et qu'il y a un piano à votre disposition, de nous montrer les différences stylistiques entre le ragtime et le boogie-woogie. Après les mots, écoutons les notes.
Avec plaisir.
Je vous en prie, installez-vous. Déjà, par quoi allez-vous commencer ?
Ben tiens, on va peut-être prendre cette image de train. Je parlais du train à vapeur qui a donné la rythmique de basse. C'est une des explications. Voilà, on a vraiment le son du boogie-woogie.
Et alors le ragtime ?
Le ragtime, je vous parlais du poum-chick. Boom, chick, boom, chick, boom, chick, boom, chick, avec ses basses longues et les accords très secs comme la guitare manouche dans le jazz. Chick, boom, chick, boom, chick, boom, chick.
Voilà. Est-ce qu'on peut transformer un boogie-woogie en ragtime ou inversement?
Il y a un mélange inévitable, mais par contre, c'est un enfant qui m'a posé la question il y a un mois et du coup, j'avais fait le test chez moi. Pour moi, ça fonctionne pas. Peut-être que dans mon cerveau, il y a un blocage et je me refuse à mélanger ces deux styles, mais... Non, c'est vrai que quand j'essaye de le mélanger automatiquement, ça marche plus.
On peut dire que le ragtime provient des cakewalks. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les cakewalks ? C'est vraiment la préhistoire du ragtime.
La préhistoire du ragtime, effectivement, les esclaves qui profitaient d'un jour de repos pour se moquer des manières de leur maître. Et ce qui a donné lieu à des petits spectacles privés. Des maîtres, un jour, ont assisté à une danse comme ça. Ils ont offert un cake au meilleur couple de danseurs. Et donc, le cakewalk, la marche du cake, c'est effectivement le grand-père du ragtime.
Il faut dire que les cakewalks ont même inspiré des grands compositeurs européens. Je pense notamment à Claude Debussy, qui a fait un titre qui s'appelait Gollywog's Cakeswalk, si je me souviens bien. Ce qui prouve une fois de plus qu'il y a vraiment un intérêt européen pour le ragtime.
Ragtime et boogie-woogie, en fait, c'était les musiques les plus populaires aux États-Unis à fin du 19e, début du 20e siècle. J'ai chez moi un vieux gramophone d'époque et effectivement, sur les gramophones, sur les pianos automatiques, les pianos avec des rouleaux perforés, ça se jouait partout, ça s'entendait partout. Effectivement, c'était la musique à la mode qu'il fallait savoir jouer. Donc, il y a eu les premiers ragtime très simplifiés au niveau des partitions pour que les vieilles mamies puissent avoir accès à ces morceaux. Voilà.
Nous parlons d'un temps que les moins de 70 ans ne peuvent pas connaître. Je tiens à préciser que vous avez imaginé un spectacle dans lequel vous imprimez une dimension pédagogique. Comment commencent vos prestations en règle générale ? Montrez-nous.
Bonsoir, bienvenue à cette soirée d'échange et de rencontre autour du ragtime et du boogie-woogie. Alors pour beaucoup de pianistes, le seul contact avec le boogie se résume à ce morceau-là. Et je le sais parce que moi aussi, quand j'ai commencé à bosser le piano, j'ai travaillé ce morceau. Alors ça donne quelque chose comme ça. Bon, ça c'était au début, après j'ai un peu travaillé quand même, et je fais un peu évoluer le morceau, et à la fin je dis, bon, c'est vrai qu'en ce morceau à la base il est hyper simple. Les gens se marrent parce que je finis... le morceau il est hyper simple, donc tout le monde se marre et je leur dis, si, il y a des pianistes dans la salle, on est d'accord, ce morceau il est vraiment hyper simple. D'ailleurs, cette image de simplicité a toujours collé au boogie, et ça depuis sa naissance. Et pourtant, au début, tout n'était pas aussi simple. Et là, il y a un bruit de bateau d'esclaves qui arrive aux États-Unis. Voilà.
Et vous commencez l'histoire des premiers Africains arrivés sur les terres américaines. Vous parliez de difficultés. Quand on vous écoute jouer, on entend une vraie fluidité. Est-ce que c'est une musique, en effet, difficile à jouer, le ragtime ou le boogie-woogie?
Les deux, avec leurs particularités, sont techniquement très difficiles. C'est vrai que au départ, pour réussir à tenir le spectacle d'une heure et demie, il y a une petite demi-heure d'histoire, je dirais, et la partie musicale, de tenir plus d'une heure de ce répertoire-là, c'est une gageure, effectivement.
Ça demande quoi? Ça demande des efforts physiques?
En fait, ça demande beaucoup de décontraction. Au final, c'est ça. Pour réussir à tenir, à ne pas tétaniser les muscles, parce que les mains gauches de boogie... des morceaux qui durent 3, 4, 5 minutes et ils s'en enchaînent comme ça un certain nombre, une vingtaine de morceaux dans le spectacle. Donc c'est vrai que c'est une main gauche qui est un peu plus martelée, on peut dire, mais la main droite en joue tout autant. D'une manière un peu différente, elle se balade plus sur le clavier, mais non, les deux mains en prennent pour leur grade.
La main gauche c'est la rythmique et la main droite c'est la mélodie?
On peut résumer ça comme ça, parfois la main droite joue aussi de l'accompagnement, ça peut arriver, mais en règle générale effectivement, on a les mélodies à droite et l'accompagnement à gauche.
Qui sont les grands noms du ragtime et de boogie-woogie?
Dans le boogie-woogie, on peut citer Midlux Lewis, Pinetop Smith. Pinetop Smith, c'est lui qui d'ailleurs a donné le nom au boogie-woogie. En 1928, il a composé le Pinetop's boogie-woogie. Le Pinetop's Boogie a donné son nom au Boogie Woogie. Et quand je vous disais que les musiques sont nées à peu près en même temps, ragtime et Boogie Woogie, en fait c'était vrai musicalement, mais par contre ça ne s'appelait pas du Boogie Woogie au départ, c'était du Barrel House. Le style s'appelait Barrel House. Et ça se jouait dans des maisons à tonneaux, les Barrel House, les tripots quoi, où on buvait de l'alcool frelaté, et c'est là que se jouait l'ancêtre du boogie.
Et les grands noms du ragtime alors?
Scott Joplin en a parlé, on a une personne, une célébrité qui a dit quand même qu'il a inventé le jazz, Jelly Roll Morton.
Musicien de la Nouvelle-Orléans.
James Price Johnson, qu'on appelle James P. Johnson, qui a un peu fait évoluer le ragtime pour le... Il a un peu élargi la main gauche encore, les mouvements sont... Les déplacements au piano sont encore plus importants, et ça a donné le piano stride, donc lui c'est le père du piano stride.
C'est-à-dire, vous pouvez nous montrer?
Alors par exemple, je parlais du Poom Chick. Là on a une basse entre guillemets simple. Si j'y ajoute des notes supplémentaires, je vais chercher les basses un peu plus éloignées des accords, donc ça c'est le piano stride. Là j'en ai fait une version un peu ralentie, mais souvent c'est des morceaux assez pêchus. Et il y a Fats Waller que tout le monde connaît. Il n'était pas un musicien à proprement parler de ragtime, mais Duke Ellington a été très influencé par cette école-là. James Price Johnson a été un de ses pères spirituels. Thelonious Monk utilisait énormément de techniques ragtime dans son jeu.
Est-ce qu'on peut dire que le Tutti Frutti de Little Richard entre dans le Boogie Woogie?
Si j'explique l'histoire du Boogie Woogie, je vais pas l'inclure dans cette histoire-là, mais par contre, c'est la suite inévitable du Boogie, c'est le rock'n'roll, voilà, avec ce type de jeu.
Et à la fin, Jerry Lee Lewis renverse son piano. Vous avez oublié de faire ça à la fin de votre démonstration.
Il met le feu au piano. Je ne sais pas si vous avez vu le film Great Balls of Fire. Il verse une bouteille d'alcool et il met le feu au piano.
Donc vous êtes gentil, vous faites attention à notre matériel. Merci à vous. Bon, pour la peine, on va quand même écouter Tutti Frutti.
Just what to do.
Tutti Frutti, Little Richards, en 1955, et qui représente le lien entre le boogie-woogie et le rock'n'roll naissant. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, Sébastien Trondelet?
Qui représente le lien, pour moi, ce qui a donné naissance au rock'n'roll, ça va être plutôt les orchestres swing qui reprenaient dans tout leur répertoire, parce que le boogie était tellement populaire qu'il fallait, le public attendait qu'il y ait un morceau de boogie dans le répertoire, petit à petit, c'est devenu du rock'n'roll. La batterie s'y ajoute, la basse s'y ajoute, les cuivres, etc. Donc, pour moi, c'est ça le lien historique.
Vous dites qu'il y a finalement 10 ans de pause entre la fin du boogie-woogie et la naissance du rock'n'roll. Et donc, on peut pas les relier directement. La fin du boogie-woogie, c'est les années 40,
45.
Le début du rock'n'roll, c'est le milieu des années 50.
Voilà.
Il y a bien 10 ans d'écart.
Il y a bien 10 ans d'écart. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de pianistes de boogie qui jouaient à cette époque-là, mais c'était moins populaire. Le swing a pris la vedette totalement, et donc le boogie est un peu mort comme ça. À force de l'édulcorer, en fait, on l'a perdu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je prône les versions solo de ces musiques. Le rock'n'roll, de toute manière, ça se joue en général en piano solo, mais le boogie, même dans les festivals aujourd'hui, souvent, il y a un côté trop rock'n'roll pour moi.
Donc vous êtes, vous, dans les racines de la musique?
Dans ce que j'estime, moi, être les racines de cette musique.
Sébastien Trondelet, est-ce que ces musiques, ragtime et boogie-woogie, sont le miroir social et racial de l'Amérique au tournant du XXe siècle?
J'ose presque pas y répondre parce que, ouais, il y a un tel poids historique, un lourd passé historique, c'est comme prendre responsabilité de répondre à cette question, mais oui, c'est le reflet, je veux dire. Je vous ai dit, ça démarre par un bruit de bateau d'esclaves qui arrive aux États-Unis. Il y a la ségrégation, il y a la guerre de sécession, on passe par des multiples conditions de vie hyper difficiles, et quand on voit la musique qui en résulte, il n'y a presque pas de lien à faire directement. On se dit, c'est pas possible, c'est pas ces gens-là qui ont composé, imaginé, ressenti cette musique-là. Et si? Donc, de prendre ça comme le miroir de tout ce passé-là, moi, ça me plaît beaucoup. Après, il ne faut pas minimiser ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'il y a un côté positif là-dedans que j'aime bien.
Alors, plus précisément, que racontent pour vous ces musiques-là?
C'est autant la joie de vivre, c'est autant se rappeler de ce qui s'est passé historiquement pour ne pas l'oublier. C'est vrai que c'est assez ahuri de le faire découvrir à pas mal de gens. En fait, je me rends compte qu'on ne connaît pas bien cette histoire. Même des gens qui sont passionnés par le jazz, ils ne connaissent pas forcément ce qui existait avant le jazz. On ne connaît pas cette tranche d'histoire-là qui est pourtant si importante pour tout ce qui va venir. Le rhythm and blues est né du boogie-woogie, le jazz est né du ragtime, du boogie, du blues.
On ne connaît pas la préhistoire, en fait, du jazz et du blues.
C'est vrai.
Comment un musicien français, blanc, vivant au XXIe siècle comme vous, a-t-il pu se passionner pour cette culture-là qui est très éloignée de la vôtre?
Ben, la musique, elle me paraît si proche de moi que... Après, culturellement, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai eu l'idée du spectacle et 15 ans après, j'ai osé le présenter sur scène. Je ne suis pas du tout historien de ces musiques-là. Je cherche toujours à découvrir de nouvelles choses, des petits liens qui me manquent. Quand j'ai commencé à m'intéresser au jazz, en fait, c'est là que c'est né, En lisant les premiers bouquins d'histoire à 15 ans, le boogie-woogie, j'ai appris que c'était venu se greffer là-dedans historiquement, donc j'ai commencé à faire des recherches et des recherches.
Précisons que vous avez enseigné la musique très tôt, dès l'âge de 15 ans. Vous avez donné des cours à l'école de musique d'Agneau dans l'Est de la France, à Bâle, également en Suisse, il faut le préciser. Vous intervenez dans les collèges et les écoles primaires. Vous éditez en septembre une méthode de boogie-woogie. Vous préparez un documentaire sur le ragtime et le boogie-woogie. Ce n'est plus de la passion, c'est de l'obsession. Il y a tant à dire sur ces musiques noires américaines?
D'ailleurs, il manque même une partie. On m'a fait une commande de duo de saxophone-piano sur des ragtime. Donc,
wow.
Il y a des partitions qui vont sortir là au mois de juillet. Il y a le congrès mondial du saxophone qui aura lieu à Strasbourg cet été, au mois de juillet. Et donc, les partitions sortiront à cette occasion. Moi, je dirais, là, c'est plutôt le hasard de la vie qui fait que tout vient se mêler. Enfin, le hasard de la vie. Il n'y a jamais de hasard dans la vie en même temps. Donc, ça m'intéresse à la base, donc je suis à l'affût de ce qui peut se passer au niveau du boogie et du ragtime, mais pas uniquement. J'ai un nouveau projet de jazz qui est en train de naître, beaucoup plus contemporain, et c'est ma formation à la base. Donc tout peut m'intéresser, mais après, effectivement, on m'a commandé des partitions de ragtime, mais j'avais pas prévu de le faire, effectivement, à la base. J'ai écrit une méthode de boogie-woogie, je me suis pas dit, un jour j'en écrirai une, et ça fait partie de mes challenges. Ça s'est fait comme ça, un jour j'ai eu un logiciel de partition, j'ai commencé à essayer de m'en servir, et ça a donné une méthode.
Finalement, quel est votre but à travers cet album Rag and Boogie? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de faire connaître finalement toute une famille de musiciens qu'on connaît assez peu, de les réhabiliter?
De la réhabiliter, je l'avais jamais conscientisé, mais par contre, ce que j'essaie plutôt de faire, c'est effectivement avec cette formule en piano solo, en écrivant une méthode des boogies, c'est de redonner un peu une nouvelle vie à cette musique que je trouve qui est toujours actuelle. Quand je vais jouer du boogie ou du ragtime dans les écoles primaires, il n'y a pas un gamin qui me dit c'est la musique de mon grand-père, ça. Pas un seul. Ils sont en train de danser, en train de s'amuser, ils trouvent ça hyper vivant. Donc, c'est assez fort de voir ça, quand je rencontre des publics de différents âges, différents pays même, qui en écoutent, ils disent « Ah ben c'est fou ça, je m'attendais à m'ennuyer en voyant un concert de piano, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, et c'est vrai que c'est hyper vivant, on a envie de danser et tout. » Donc, de redonner goût à cette musique dans sa forme originelle, en piano solo, moi c'est un peu ce que j'essaye de défendre.
C'est un bon apprentissage, le ragtime et le boogie-woogie, pour débuter le piano?
Techniquement, c'est pas très très facile à faire sonner, donc en débutant le piano, je pense... Ça va dépendre des envies des enfants surtout.
Est-ce que ce n'est pas plus ludique finalement de jouer du boogie-woogie ou du ragtime plutôt que de la musique classique ?
Eh ben, je vais dire non, parce que vraiment, il y a des enfants qui viennent prendre des cours et qui veulent jouer de la musique classique. Pour eux, c'est... Par contre, c'est vrai qu'il faut suivre... Ça, c'est peut-être le défaut peut-être de la pédagogie d'aujourd'hui, c'est on ne suit pas forcément les envies des gamins, quoi.
Sébastien Tronelet, puisque nous avons la chance d'être dans le studio One, est-ce que vous nous feriez l'honneur de clore cette émission avec une composition personnelle?
Vu qu'on n'a qu'une sur l'album, ok, c'est pas...
Le temps de vous laisser vous installer, je rappelle que votre album Rag and Boogie est disponible chez Frémo et Associés et qu'on pourra vous applaudir le 13 mars prochain à Célestat dans le Bas-Rhin, c'est dans l'Est de la France, et cet été à Strasbourg et au Festival International de Boogie Woogie de la Roquebrune dans le Cantal en plein centre de la France. Merci à Nathalie Laporte pour la réalisation pianistique du jour, soutenue par Fabien Mugneret et Mathias Taylor pour la prise de son furieusement boogie de cette épopée woogie. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans jours, dans quelques instants, le journal. Mais laissons les dernières notes de cette émission à Sébastien Tronelet. C'est à vous. Ragan Boogie, Sébastien Tronelet depuis le Studio One. Merci à vous de cette interprétation vraiment pour nous, spécialement, exclusive. Et vous serez toujours le bienvenu dans cette émission. Merci à vous.
Merci.
Pub.